soi et chez soi. Une émission de Daniel Fazan.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue au Val-de-Ruz. Nous sommes un petit peu dominants sur ce Val-de-Ruz qui est blanc et magnifique en ce début janvier. Et nous allons rencontrer un artiste. Vous me direz, oui, toujours un artiste. Mais oui, mais c'est un artiste de scène. Il s'appelle Noël Antonini. Vous le connaissez peut-être pas, mais vous l'avez vu plusieurs fois. Vous l'avez vu au cirque, vous l'avez vu au théâtre, vous l'avez vu faire des interprétations ou des improvisations. Il s'appelle Noël Antonini, on le sait maintenant, mais il fait partie du trio des Purge. Et il va s'installer pendant une année, deux ans, dans un projet. Et je vais épauler ce projet et le rencontrer plusieurs fois. Il va monter sur scène, il va faire un travail seul, un travail de solo théâtral. Et c'est l'occasion de le rencontrer ici à Fontaine-Melon, dans le canton de Neuchâtel. Ici, des chaussures d'enfants, plein, des chaussures d'adultes aussi. Et puis, je vais sonner à la porte de Noël Antonini. Ce travail, ça va être un travail de longue haleine pour lui. Il a commencé déjà il y a 5 ans, l'écriture, et puis ensuite l'interprétation. Nous verrons ce travail. Et bonsoir.
Bienvenue.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, bienvenue, entrez seulement.
Merci. Ah, puis il y a Christine ici aussi.
Oui, alors il y a Christine Caron-Coutaudier. Christine Caron, c'est ma photographe. C'est-à-dire qu'elle photographie ma vie, elle est tout le temps là derrière. Moi, le matin, je me réveille le matin, elle est là, je vais aux toilettes, elle est là, je me douche, elle est là.
Aux toilettes aussi, tiens.
Elle fait toute ma vie, elle suit. Quand on est une star, c'est comme ça.
Je sais, puis moi, je suis photographié aussi, évidemment. Oui. Je serai sur votre blog.
Oui, sur ma page Facebook, on vous y verra, on verra toute la rencontre qu'on a eue cet après-midi et les liens de la suite de cette rencontre.
Eh bien, écoutez, on rentre dans votre maison. Oui. Vous me disiez, bienvenue dans mon ex-future maison, ou ma future ex-maison. Ancienne. Enfin, voilà. Vous allez partir d'ici?
Ouais, je suis sur le point de déménager dans 2 mois et demi, fin mars. Je déménagerai pas loin. Mais j'ai 40 ans depuis peu, là, depuis un mois. Donc, je pense que c'est le moment de devenir un peu propriétaire, puis de commencer à voter à droite, je pense. Alors, je m'achète un appartement et voilà, je serai pas loin dans un village juste à côté.
Alors, rue du Châtelard, 4,5 pièces à louer. J'ai vu c'est celui-là?
Alors, le mien est repris déjà, mais c'est celui du dessous aussi, parce que j'avais un couple de policiers très sympathiques qui étaient là, qui sont partis dans le Jura. Ils sont retournés un peu travailler vers la police dans le Jura.
Monsieur et madame sont policiers les deux?
Oui, les deux, ouais. Et ils ont fait, pendant qu'ils étaient ici, ils ont fait une petite policière. Ou une polissonne, je sais pas.
C'est joli chez vous. C'est tout clair, c'est tout blanc. Il y a des curieux tableaux. Ça doit être votre enfant qui a fait ça.
Oui, c'est une œuvre de mon futur grand artiste, Léon, mon fils.
Il a quel âge?
Il a eu 6 ans en novembre.
Et, oui. Et c'est une huile?
Oui, c'est une huile. Il dessine avec les pieds, les mains. Il fait des nuages avec les pieds. C'est très, très beau. C'est un grand artiste.
Oui, c'est votre seul fils?
Oui, c'est mon unique fils. Et mon fils unique.
Vous avez un regret des Purge? Parce que je me dis, quand même, quand on a travaillé à trois, Noël Antonini, avec, Christophe Bunion, oui. Et puis Enriquez.
Carlos Enriquez, ouais.
Ouais. Vous avez une nostalgie de cette période?
Un regret pas, une nostalgie oui, mais en même temps c'est pas fini. Purge, on existe toujours, on a des projets en cours.
Mais moins.
Alors je crois qu'on est vraiment une période carrefour. On a fait 15 ans à fond. Où on est allé du Québec à Paris, un peu partout, on a tourné, joué, fait des tels, etc. avec nos personnages. Et puis, après le CNI, on a senti petit à petit, ça a pris du temps, puis on en a beaucoup discuté, qu'on arrivait au bout d'un premier cycle, puis qu'on voulait pas refaire un xème spectacle des vieux pour refaire un xème spectacle. Et donc, on s'est mis en stand-by. Mais il faut dire qu'on est tous un peu sur des projets différents. Christophe Bunion, on l'entend beaucoup à l'agence, donc l'émission de la RTS le dimanche.
Qui suit la soupe,
ouais, moi, j'ai mis du temps à dire l'agence à la place de la soupe. Elle se ressemble tellement. Et non, je taquine un peu. Et puis Carlos, lui, par exemple, là aussi sur d'autres projets, il vient d'écrire et jouer un spectacle en Suisse allemand qui tourne beaucoup et en Suisse allemande qui commence à bien tourner et qu'on peut voir en Suisse romande qui s'appelle en Suisse allemand « I bin not vom I », je sais plus quoi, hein. Je suis pas d'ici, ça veut dire.
Et Pénut, faut dire.
Ouais, mais il a fait une volontaire faute de suisse allemand.
Ah, pour faire un roman qui parle mal.
Ouais, voilà. À tel point que à Bienne, quand il a demandé des subventions à la création, l'administration communale de Bienne, enfin les finances ont dit non, mais on va pas donner de l'argent à quelqu'un qui fait une faute sur l'affiche. Donc il a pas eu les sous.
Intérieur, être soi, sous son toit.
Ici, la chambre du petit.
Ouais.
Ah ben, ils ont de la chance quand même, ces gamins. Ils ont plein de jouets. Et puis, il y a des tableaux rigolos. Cette vache, il me semble que je la connais. Je l'ai déjà vue quelque part. Elle vient d'où ?
C'est une vache parisienne. C'est un tableau que j'avais reçu à mes 30 ans et puis que je trouvais rigolote. Donc, je l'ai offert à mon fils, enfin, dans sa chambre.
Et tissu collé à carreaux et puis une jolie gueule qui fait penser à la vache qui rit, mais c'est pas la vraie.
Non, c'est une vache vraiment dessinée très, très enfantine sur une espèce de nappe. Le fond est une nappe et c'est assez sympa, ouais.
Et c'est beau, cette maison. Vous allez la quitter. Il y a des stucs au plafond. C'est une maison quoi, genre 1930, quelque chose comme ça ?
Alors, je saurais pas précisément, mais c'est vraiment une maison ancienne.
Les années, la technique nous en foutent.
Ouais, mais on s'en fout maintenant. On n'a plus beaucoup de temps à vivre, on ne va pas commencer à regarder de quand sont les maisons. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moulures au plafond, il y a des parquets. Bon, celui-ci n'est pas un vrai parquet, mais il y a des vrais parquets. C'est une vraie belle ancienne maison avec une magnifique vue depuis le balcon. J'y suis très bien, mais je ne veux pas y rester.
Bon, tant pis. Là, des photos d'artistes, des affiches. Vincent Delerme. Vous aimez bien quand il chante ?
Non, moi pas, mais c'est un cadeau que le parrain de mon fiston, Pietro Falce, qui programme le Casino Théâtre et le Café Théâtre La Grange au Loc, lui avait offert l'affiche. Et puis voilà, puis il l'a aimé, il l'a mis sur sa porte.
À part ça, Vincent Delerme, c'est génial comme il chante. Parce qu'il dit deux mots, on reconnaît déjà qu'il chante.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé au début, et puis comme pas mal de ces chanteurs français très typés, on aime bien quand c'est la découverte au début, puis après au bout ça a de la peine à se renouveler sur les textes, et la manière de chanter on connaît, donc il y a l'effet de fraîcheur qui diminue, moi j'ai un peu plus de peine maintenant, mais ça reste un grand artiste et j'ai toujours eu le plaisir à entendre ses chansons, mais j'achèterai plus ses disques, voilà.
Noël Antonini, vous avez eu une identité relativement cachée avec les Peutsch. On ne vous reconnaît pas forcément dans la rue. Vous étiez un vieillard comme les deux autres. On avait fait d'ailleurs une émission dans un EMS à la Chaux-de-Fonds. C'était génial. Vous étiez mélangé à tous ces gens. Vous grimez, eux, pas besoin. Ils ne pouvaient plus rien changer. Et vous avez un joli physique, mais peu reconnaissable. Dans le fond, on vous a peu vu sans maquillage.
Non, rarement. C'est vrai que j'étais caché sous mon personnage. Et tant mieux finalement. Par rapport aux deux autres, c'est vrai qu'une fois démaquillé, il y a une plus grosse différence entre mon personnage et moi. Que eux, on reconnaît peut-être plus leur physique, ce qui est peut-être plus un compliment pour moi, mais moi, ça m'arrange assez. Moi, j'aime bien avoir cet anonymat comme ça. Être reconnu, ça peut être très sympa des fois et très arrangeant. Et puis, des fois, ça peut être. Moi, j'aime bien passer inaperçu. D'autant plus que j'ai peut-être un physique charmant, c'est bien possible, mais très commun.
Tu parles, on aimerait tous être communs comme vous. J'ai vu des photos de vous jeunes, on dirait Julien Clerc dans la fraîcheur de l'aurore sublime.
Oui, on m'a beaucoup comparé à Julien Clerc, on m'a même poussé à aller faire une émission de la RSR à l'époque de Sosie. Je l'avais pas fait, mais des parents d'amis m'avaient dit « Mais faut que tu ailles, tu ressembles à Julien Clerc. » Ouais, d'accord. Mais je ne suis pas allé. Mais j'ai beaucoup rencontré de gens qui me ressemblent finalement. Il y a beaucoup des gens me disent « Ah, je t'ai vu là, mon physique est commun. » Il y a beaucoup de grands bruns qui me ressemblent. Voilà, c'est pas grave.
Ben, je sais pas s'il y en a plusieurs stères, il faudra me les présenter parce que il y a plutôt des mystères. Moi, je pense pas que vous êtes aussi commun que vous le dites. Mais enfin, bon. On change de pièce ?
Oui, d'accord, on change de pièce.
Léon n'est pas là. Léon n'est pas là. Et puis, joli salon. Très bien. Et puis là, cette magnifique affiche du Cirque Ny. Ça, c'est l'année où vous étiez en tournée avec le cirque, sur la partie romande.
Exactement. Ne me demandez pas l'année en chiffres. Je ne saurais pas vous le dire. J'ai un problème avec les chiffres. Mais
on dit toujours il y a 5-6 ans.
Mais c'est ça. Toute ma vie, tout s'est toujours passé il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, c'était super passionnant dans ma vie. Non, c'est l'affiche de quand on a fait la tournée du Cny avec les Peutsch, la tournée romande. Et c'était une foutue belle aventure. Quelque chose d'un univers incroyable à découvrir. Et une une belle grande course d'école. Et puis voilà. Et puis cette affiche, je la garde parce que j'ai de la chance. Moi, je trouve pas tout le temps les affiches du CNI très belles. Et je dois dire que celle-ci est largement la plus belle depuis des années. Donc, du coup, j'ai pas de honte et j'ai un grand plaisir à l'avoir dans mon salon.
Elle est bleu, blanc, rouge. Ça représente un clown blanc qui fait un clin d'œil. Et puis le CNI, évidemment, la marque. C'est vraiment une marque déposée, écrite en grand. Ouais, c'est une belle affiche graphique. Elle a beaucoup de gueule. Elle fait très cirque et en même temps talentueux et artistique.
Ouais, il y a un vrai jeu des couches, des transparences avec des couches de blanc plus foncé, complètement mat, d'autres moins, d'autres pour travailler sur la profondeur. C'est un vrai travail graphique très intelligent. Elle est belle, elle est juste belle. Voilà.
Vous connaissez le duo de Brigitte ?
Oui.
Qui c'est ?
Alors le duo Brigitte, donc le groupe qui passe à la radio, pour moi c'est un groupe qui passe à la radio et je les ai vus un tout petit peu en concert une fois, je crois, à Paléo, mais je connais comme ça, pas plus précisément.
C'est deux nanas et elles chantent une chanson de Gainsbourg qu'elles ont revisitée chez les Yéyés.
Intérieur sur la première.
Ni les tam tam des yéyéyés, ni les cris cris que tu portais, dadou rum rum que t'écoutais, au bal doum doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yéyéyés, sous les tam. Chercher ma Lolita chez les yéyés, chez les yéyés, chez les yéyés, chez les yéyés, chez les
C'était Brigitte, elles sont deux. Et on est toujours chez Noël Antonini, à Fontaine-Melon. Vous allez quitter l'endroit, vous dites le village d'à côté, dans quelques mois, quelques semaines ?
Oui, fin mars. Le déménagement se fait fin mars. Si l'entreprise qui rénove mon appartement, et s'ils m'entendent, ils ont intérêt à tenir les délais, tiennent les délais, justement.
Alors, l'aventure du cirque, on va peut-être y venir un tout petit peu et ensuite plonger dans votre projet futur, parce que c'est bien la raison qui nous vaut d'être ensemble là ce soir. Le CNI, moi j'ai souvent zoné dans les coulisses, etc. J'ai toujours trouvé qu'il y avait pendant les spectacles, etc., une assez grande indifférence. Chacun fait son boulot, c'est une grande horloge. J'y ai pas toujours vu une chaleur extraordinaire. J'ai souvent interviewé des artistes qui participaient, notamment Marie-Thérèse Porchet et d'autres. C'est un peu une sorte de grande mécanique, point barre.
C'est une entreprise. Il faut, alors il y a deux choses. Le CNI représente pour la Suisse, je pense, remplace une monarchie. Il y a quelque chose dans la famille CNI qu'on pourrait avoir dans la famille de Monaco, ou comme ça, on a...
Oh, d'ailleurs, ils se sont presque mêlés.
D'ailleurs, ils ont failli essayer de les faire se reproduire, mais ils n'ont pas réussi. Mais il y a cette image-là. Mais après, le CNI, il n'y a pas de miracle. C'est une grosse entreprise, c'est un énorme business, c'est rodé comme une horloge des montagnes châteloises. Et voilà, après, il y a un côté, ils bossent. C'est pas, on est, voilà, c'est un boulot, c'est un métier, c'est un univers à part. Parce que quand vous entendez les gens du cirque parler entre eux, vous comprenez rien. Parce que c'est comme un monde parallèle. Ils vivent toute l'année rythmé sur d'autres rencontres, sur les rencontres de fin d'année où ils se retrouvent tous, etc. Puis après, la saison reprend, puis ils passent d'un cirque à l'autre. C'est un vrai business. Mais en même temps, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est le côté découvrir le cirque dans son fonctionnement. Moi, je connais des plus ou moins grands plateaux, des scènes, des, et voilà. Là, on est dans un cirque. Se préparer son numéro avec, à côté d'artistes et d'acrobates qui se chauffent sur une poutre russe, là où ils font des sauts périlleux, et il y a deux gars qui tiennent la poutre. Et donc, ils sont juste en train de se chauffer en coulisses. Et juste à côté, il y a les 5 éléphants alignés. Et puis, paf, ça sort, les éléphants enchaînent. Waouh, c'est, il y a un truc, puis après, il y a tout l'après, c'est-à-dire que nous, on a eu beaucoup de chance l'année où on a fait le CNI, c'est que, et ça dépend d'une année à l'autre selon les artistes et les mélanges, mais on a eu beaucoup de chance. Nous, on avait beaucoup de jeunes qu'on a eu des acrobates brésiliens, des voltigeurs, etc., et beaucoup de jeunes. Ce qui fait que on était encore pas mal jeune, je devais avoir à peu près 35 ans. 35
et vous faisiez les vieux.
Et on faisait les vieux le soir, et après on faisait la noce avec les Brésiliens, les soirées Caipirinha, etc. Donc il y avait une super ambiance entre familiale et jeune après les spectacles. C'était c'est un vrai bon souvenir.
Noël Antonini, les Peutsch, je travaillais à trois, c'est quelquefois compliqué. Ah tiens, il se déshabille. Ouais, vous avez chaud ?
Il fait chaud à côté de vous. Il fait vraiment chaud de... chez moi, à côté de vous.
Non, je vous remercie, je chauffe l'ambiance. Il y a des moments chauds, justement, dans le trio Peutsch. Il y a des moments où on s'engueule, parce que c'est compliqué de travailler à trois.
Oui, carrément des moments où on s'engueule. Nous, on a eu, je crois, l'intelligence et le talent de carrément savoir gérer ça. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement, quand il y avait vraiment un truc qui n'allait pas, et encore maintenant d'ailleurs, on le dit aux autres, on se fixe un rendez-vous, chacun fait le point sur ce qui va pas, et on se fait des tours de table sans qu'on y réponde, puis après on fait des tours de table où on y répond, enfin voilà, ce qu'on appelait les séances feel good, histoire de tout poser sur la table, et ça nous a aidé à passer certaines étapes. Mais c'est vrai que le fonctionnement d'un trio comme ça, ou d'un duo en humour, enfin voilà, mais ce trio-là, c'est comme un couple, donc ça veut dire que ça demande des fois de pas être d'accord, ça demande de s'engueuler, ça demande de se dire les choses intelligemment, et puis de faire des compromis, et c'est intéressant parce que maintenant je pars sur des projets solo et Carlos des Peutsch qui est aussi parti sur un projet solo l'année passée, on en parlait avant le spectacle en Suisse allemand, m'a dit mais c'est génial, tu verras, tu choisis, t'as une décision à faire, tu le fais, paf, dans l'heure c'est fait, tu veux contacter un tel, t'as pas besoin de demander aux autres si on fait ça, on fait ça comme ça, si machin.
Ah, ça ralentit le trio, hein.
Ça ralentit, il me dit mais là c'est, tu fais tout, tout va super vite, et voilà. Donc c'est vrai que c'est plus facile, en même temps un trio c'est une équipe, et puis c'est des années de collaboration, de souvenirs ensemble, et moi j'ai toujours aimé travailler en équipe, donc et on continuera à travailler en équipe.
Donc, justement, maintenant, une idée sort il y a 5 ans, l'idée ou la volonté, l'écriture d'un spectacle. On va suivre ça en 3 épisodes, peut-être sur une année et demie. On vous reverra. À ce stade-là, aujourd'hui, de la préparation de ce prochain spectacle, dont je peux imaginer que vous ne connaissez encore pas le titre.
J'en ai un de titre, mais c'est clairement un titre provisoire, parce que c'est un spectacle, il y a déjà un spectacle qui a ce titre-là, que j'ai vu et programmé à l'époque où je programmais la salle du casino et du café théâtre Lagrange, qui s'appelle Une étoile pour Noël, et qui a été un grand succès en France.
Alors, vous pouvez pas l'appeler comme ça?
Non, je vais pas l'appeler comme ça. C'est juste que dans mon texte, il y a un moment donné où je parle aux étoiles, et voilà, il y avait vraiment, c'est un titre qui aurait très bien été pour mon spectacle. Et puis, comme un titre, ça sert à rien de se casser la tête, tête d'absolument en chercher un tout de suite, etc. Il faut laisser venir, ça vient une fois que le texte est complètement écrit. Enfin, tout d'un coup, il y a une évidence. Je me suis dit, tant qu'à...
Alors voici Noël.
À attendre l'évidence...
Alors voici Noël.
Non, parce que je laisse ça à Alain Morisot, qui fait des très beaux disques avec le titre Voici Noël, et j'aimerais éviter d'être catalogué dans cette catégorie mièvre des fêtes de fin d'année.
Non, je rigole. Pas mièvre, Morisot. C'est super beau.
J'ai pas dit rock'n'roll. J'ai dit les fêtes de fin d'année étaient mièvres, pas Morisot. Morisot, il est rock'n'roll.
Yeah.
Oh, ouais. D'ailleurs, Ambroise, Fernand et Maurice en parlaient avec lui l'autre jour à l'EMS. Il est très rock'n'roll, Morisot. Non.
Alors pourquoi vous êtes
être méchant, c'est incroyable. Non, alors voilà. Je me suis dit pour les dossiers et tout, basta. Je mets ce titre qui est sympa avec entre parenthèses titre provisoire. C'est clairement un titre provisoire et ça sera clairement pas le titre de mon spectacle. Mais comme ça, je me casse pas les à devoir chercher un titre.
Alors vous appelez Noël. Pourquoi?
Pourquoi moi je m'appelle Noël?
Ouais.
Parce que je suis un prématuré. Non, c'est vrai. Les médecins, vous savez, sont des gens tellement intelligents, ont tellement de savoir qu'ils ont la prétention de donner une date précise aux parents. Et donc, moi, c'était 25 décembre. Et comme je suis un curieux, je suis arrivé plutôt la nuit la plus longue. Et donc, je suis arrivé sur Terre le 21 décembre 1972.
Et le titre était déjà pris. Et était déjà choisi, surtout.
Ouais. Et j'ai ce titre mièvre, ce prénom mièvre qui est Noël et que j'adore. Et je suis bien content d'être un garçon parce que si j'avais été une fille, je me serais fait appeler Marie-Noël. Oh, putain, la honte.
Intérieur, une émission de Daniel Fazan.
Ce spectacle, on pourrait tout imaginer, vous écoutant, que c'est un spectacle drôle, formidablement tonique, etc. Je crois que c'est pas tout à fait le cas.
Non, non, alors on est vraiment dans autre chose. Je vais essayer de la faire courte, mais il est né d'un besoin... D'abord, il est né d'un besoin, il y a quelques années, de me dire... Première étape, c'est de me dire, mais moi, j'aimerais faire un solo. Mais pour moi, comme je venais de l'humour, de l'improvisation, de l'humour, ben, mon évidence était de faire un spectacle solo d'humour. Puis j'ai commencé un peu à écrire en humour, puis ça collait pas à ce que j'écrivais, c'était pas, voilà, ça ressemblait à des chroniques radio, puis surtout, j'avais pas beaucoup de plaisir à écrire, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je défends, c'est quoi le fond, qu'est-ce qu'est un spectacle, il est bon quand il y a une, au-delà d'une nécessité, une quand le mot m'échappe, une... Il faut que ça naisse de quelque chose d'inévitable, qu'il y ait une vraie nécessité vraiment fondamentale au fond. Et puis, plus ça avançait, plus je me disais, mais à un moment donné, mais de quoi j'ai envie de parler? Qu'est-ce que j'ai envie de défendre? Qu'est-ce qui est dans ma vie et quelque chose dont j'ai envie de parler? Et puis, tout d'un
coup. Parce que chez vous, il y a une fêlure.
Alors, justement, c'est ça que je cherchais. Et puis, l'évidence était tellement grosse que t'es en face de moi et je la voyais pas, mais parce que je vis avec depuis quasiment ma naissance, mais c'est le décès de mon père à l'âge de 3 ans et demi. Et en fait, ça vient aussi à l'âge où bizarrement, c'est après coup, je le vois, hein, mais tout ça est venu aussi à l'âge où mon fils est né à peu près, peu de temps après. Et puis je me dis, mais il faut que j'écrive là-dessus, mais pas forcément de l'humour. Et donc voilà, donc je m'y suis mis, on m'a prêté une salle pendant une à deux semaines l'été. Et puis, tout est sorti très vite, très fort.
Mais vous pourriez faire ça dans un appartement. Pourquoi il vous faut une salle? Vous travaillez seul?
Oui, moi, je peux. Oui, mais alors, moi, j'ai un problème, c'est que je peux pas, surtout sur des trucs me concernant moi, j'ai besoin de me mettre dans un autre cadre. Je peux pas bosser chez moi. Chez moi, je peux écrire des blagues, je peux écrire pour les putes, je peux écrire des gags, des machins. Mais si je veux créer des choses qui sont un peu plus profondes et tout, je dois me sortir de moi-même, de mon lieu, de mon chez-moi, me retrouver dans un lieu neutre, etc., confronté à le nez dans le caca, entre guillemets. Et d'ailleurs, par la suite, là, depuis un an, je fais même la démarche, je vais même encore plus loin, je sors même de Suisse pour écrire. Mais oui, mais parce que du coup, ça me coupe de tout ce qui est mon quotidien.
Vous terminerez sur la Lune, vous pensez ?
S'il y a de la place, ouais. Non, je sais pas, non, j'ai pas besoin d'aller, mais il faut que je me coupe de mon quotidien, On vit en Suisse dans un confort incroyable. Et moi, je suis un peu un feignant. Et si je reste dans le cul dans ce coussin de soie, je vais pas écrire. Il faut que...
Oui, ils sont bien vos canapés, hein. Je pourrais les commenter, hein.
On va s'endormir là-dessus. On va pas écrire. Non, mais voilà. Il fallait que je sorte de chez moi. Donc, en effet, je suis allé à l'extérieur de chez moi. Et disons, je dirais bien la moitié, voire le trois quarts du spectacle d'une première partie sont sortis, mais ça a été vomi comme ça d'un seul trait et facilement. Mais après, il manquait une dimension.
Et là, vous l'avez trouvé ou vous la cherchez encore?
Alors, maintenant, je travaille dessus. Mais justement, après ce travail-là, il manquait une dimension. Et pendant 2-3 ans, Cette écriture est restée en stand-by, vraiment, de côté. Je la remettais en... Mais elle restait de côté, mais tous les 6 mois ou tous les 2-3 fois par année, pour X raisons, parce que je voyais un spectacle, parce que je traversais tel... Ça revenait, ça me courait après. C'est comme si, mais vas-y, fais... Puis j'hésitais, puis...
Vous n'êtes jamais allé chez un psy, vous ?
Oui, mais pas longtemps. Non, mais c'est vrai, j'en parle dans le spectacle d'ailleurs. Non,
mais
non.
Vous l'avez fait craquer, le gars ?
Non, c'est une dame très charmante, Huguette Opliguer, que j'aime beaucoup. Non, c'était un petit peu avant l'écriture, avant le début de l'écriture de ce spectacle, entre 30 et 35 ans, je pense. Il y a eu un moment donné, par rapport au décès de mon père dans ma vie, je me suis posé la question de me dire, mais voilà, je sais le travail que j'ai fait sur moi-même par rapport à ça. À divers niveaux, que ça puisse être en couple, que ça puisse être sur ma masculinité, ma part de féminité, sur plein de choses. Et puis, je me sens bien, mais j'avais le questionnement de me dire, mais est-ce que j'ai tout digéré ou est-ce qu'il reste un truc qui pourrait me péter à la gueule ? Et je me suis dit, je me suis fait conseiller, cette dame qui est vraiment très, très chouette. Et puis, on a fait 3 séances où on a parlé de tout ça, faire sortir plein de choses. Pour bout de 3 séances, elle m'a dit, mais écoutez, je crois que vous avez une faculté de résilience énorme, vous avez fait un travail sur vous énorme. On a fait un contrat ensemble sur un point précis, mais autrement, elle m'a dit, je crois que ça sert pas, si dans quelques années, il y a quelque chose qui joue pas, revenez, mais ça sert pas à rien d'aller plus loin. Donc voilà, on s'est arrêté après 3 séances. Mais ça m'a aidé dans toute la démarche par la suite et dans l'écriture aussi. Et j'en parle d'ailleurs dans mon spectacle parce qu'il y a un petit moment assez sympa sur Huguette.
On n'a pas le droit de citer des marques.
C'est pas une marque, la pauvre.
On écoute l'acteur Hugh Laurie et la chanteuse soul Irma Thomas et ce titre John Henry.
Une visite intérieure pour parler de soi.
John Henry had a little woman, and the dress she wore was red. She walked down the track, she never looked back. I'm going where John Henry fell dead. I'm going where John Henry fell dead. John Henry had another woman, and her name was Polly Ann. John Henry was taken sick, and he had to go to bed. Polly Ann drove steel like a man. Polly Ann drove steel like a man. Supper soon. I got 99 miles of track. I want to line back. I'm gonna line them by the light of the moon. I'm gonna line them by the light of the moon. Before I die, give me a cool drink of water before I die.
before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die.
C'était Hugues Laurie et Irma Thomas, un beau duo. On est toujours chez Noël Antonini, et puis on évoque ce spectacle en création, en écriture, en gestation. Alors chez vous, c'est vraiment une vraie gestation, hein, parce que c'est d'une lenteur. Vous êtes comme une éléphante, il vous faut... Mais pour faire un bébé, alors pour un petit garçon comme Léon, qui a 6 ans, ça va. Mais pour ce spectacle, l'enfanter, ça a l'air très long.
Ouais, c'est long, mais c'est long pour plusieurs raisons. C'est long pour trouver le chemin, et puis c'est long aussi parce que, et j'en parle dedans, et c'est quasiment pour l'instant la première scène, mais après peut-être les choses vont bouger parce que l'écriture n'est pas finie, mais c'est moi j'ai le syndrome du plongeoir des 5 mètres, c'est-à-dire que je me souviens très bien que dans la piscine qu'on voit là au fond du vallon à Angolon par la fenêtre.
D'ailleurs, c'est écrit sur votre blog, hein, vous racontez ça, l'histoire du projet et le plongeoir.
Oui, c'est que c'était à l'école secondaire où j'étais assez doué en sport et le prof de gym voulait me faire le périlleux arrière aux 5 mètres. Enfin, moi, je voulais le faire, sauf que devant le fait accompli, en haut, on est resté mes 3 quarts d'heure, 1 heure, jusqu'à qu'il s'énerve.
Jusqu'à ce qu'il ferme la piscine.
Jusqu'à quasiment, et qu'il s'énerve et qu'il me dit, parce que moi je cherchais toutes les excuses pour pas le faire ou enfin l'appréhension, et c'est qu'ils me disent mais vas-y, saute quoi, et que t'as peur de quoi, que la piscine se vide, que la foudre te tombe dessus, que tu te transformes en un jardin, vas-y quoi. Et en fait je réalise que toute ma vie jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, c'est que je mets du temps à faire les choses parce que c'était aussi un des moteurs du spectacle, c'est que j'ai l'impression d'avancer avec un moteur de Porsche et le frein à main tiré quoi. Et c'est cette impression que j'ai depuis plusieurs années dans mon métier, dans plein de choses, où je me sens un potentiel énorme, et j'en suis persuadé, mais moi-même, je tire le frein à main. Alors après, on peut faire des liens sur le décès de mon père, d'un accident d'avion, etc. Et est-ce que c'est la peur de vouloir atteindre les sommets et de se brûler au soleil finalement comme Icare, ou j'en sais rien quoi. Et après, on peut faire toutes les théories qu'on veut. Je les ai pas faites dans le spectacle d'ailleurs parce que je veux pas faire de théories, mais il y a un truc et je suis intimement persuadé que ce truc est aussi lié au décès de mon père.
Mais c'est assez formidable aussi de pouvoir calquer sa vie sur son propre biorhythme, votre rythme de pensée, de fabriquer, etc. Plutôt que d'être dans le stress, là, vous allez faire certainement un spectacle qui aura une valeur ajoutée énorme par rapport à un travail immédiat comme les chroniques radio, comme les punchs, comme le cirque. Ce sera quelque chose qui va importer énormément dans votre existence, et prendre le temps, c'est respecter cette chose justement.
Alors, je pense que c'est en effet un spectacle qui aura la saveur, je l'espère, la saveur des meilleures sauces tomates mijotées pendant des heures dans une grande casserole. Mais oui, mais déjà, c'est important vraiment pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout d'un coup, je vais vraiment apparaître sous un autre jour que l'humour. Donc, je vais le faire bien. Je parle de moi, de ma vie, donc je dois me respecter moi et ma vie. Je dois respecter le public parce que je vais pas lui faire des théories. Il faut que ce spectacle, et c'est le but. Le but de ce spectacle, c'est aider à grandir, donc il faut qu'il apporte au public aussi. Puis moi, j'aime les choses bien faites. Donc en effet, le chemin est long et j'y mets beaucoup d'importance. Et maintenant, je suis à fond dedans. Je ronge mon frein. J'aimerais le lâcher. J'attends plus qu'on me donne le feu vert sur le lieu de création pour que tout le reste s'enchaîne.
Le frein à main, donc, de la Porsche.
Alors c'est celui-ci que je suis prêt à lâcher, que j'ai déjà lâché, mais j'attends le feu vert pour démarrer la course. Mais non, cette fois, suite à ma rencontre de l'année passée avec Michel Guigon, le truc est parti, on y va.
Alors Michel Guigon, c'est une jeune artiste française, metteur en scène, qui a mis en scène souvent la revue du Locle et de Neuchâtel, hein, on est d'accord. C'est une dame, donc Michel, et puis elle joue de l'accordéon, elle fait des spectacles, des one-man shows extraordinaires. Hein. C'est vraiment une grande artiste, et vous êtes associé parce que vous avez été très influencé par elle.
Bah alors déjà, moi je la connaissais depuis le revue de Cluchet Barbezin, et on a toujours eu un très très bon contact. Après, on s'est un peu perdu de vue, mais les quelques fois où j'allais à Paris, je l'appelais, on allait boire le café, donc on s'est jamais complètement perdu de vue. Et puis, en effet, alors vous pouvez déjà, chers auditeurs, la retrouver. Elle est tous les jours sur France Inter, dans l'émission de... Ah, son nom m'échappe. Les noms, prénoms, chez moi, c'est une maladie aussi. Mais entre 11h et midi et demi, elle fait des chroniques là depuis la fin de l'été, qui sont magnifiques d'ailleurs. Donc vous pouvez la retrouver là. C'est compliqué parce que quand je pense à elle, j'ai toute une palette de chemins, de choses à vous raconter sur elle. Mais voilà, elle, à un moment donné, l'année passée, je suis allé voir son spectacle, qui va d'ailleurs tourner en Suisse bientôt, qui était à Vidi, l'automne dernier, enfin pas le 2012 mais le 2011, qui s'appelle Pieds nus traverser mon cœur. Et quand j'ai vu ce spectacle-là, je me suis dit, mais bordel, mais vraiment, ça m'a. Je me dis, mais c'est ça. C'est là, il fallait une deuxième phase à mon écriture, quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait plus loin.
Il fallait peut-être une femme aussi.
Et peut-être une femme aussi, en effet. Enfin, il me fallait quelqu'un. Ça faisait 2-3 ans que ce projet stagnait aussi parce que je cherchais un guide, quelqu'un qui m'a dit que j'ai fait lire à 2-3 personnes, à gauche, à droite. Vraiment, j'étais en train de tâtonner depuis 2-3 ans. Et là, je me dis, mais Michel, voilà. Après le spectacle, on parle un peu de ça. Je lui pose de mon problème où je lui dis, voilà, j'ai une première phase d'écriture, mais il faut que j'arrive dans la deuxième. Et elle me dit, bah écoute, envoie-moi le texte et puis je te redis. Je lui ai envoyé le texte en juin 2012, l'année passée. Je vais à Paris 3-4 jours écrire, puis surtout discuter. Discuter beaucoup du texte, mais aussi du bien fondé de le faire ou de ne pas le faire, etc. Et puis, jusqu'au moment où elle m'a dit, mais écoute, c'est à toi de voir, de toute façon. Elle pensait qu'il fallait le faire, mais elle me dit, mais est-ce que tu en as assez marre de. Elle m'a dit, faut savoir si tu en as marre au point de dire, ben, faut faire le spectacle dans le sens que. De mon spectacle, des fois, je parle d'un caillou que j'ai dans le décès de mon père est comme un caillou dans la chaussure. Ça se trimballe, puis finalement, bon, on peut très bien, avec le temps, on sait le mettre de côté, etc. Mais
on sait marcher avec.
Voilà, mais ça empêche de courir. Et c'est ça que j'aimerais courir. Enfin, bref.
Ah, ben c'est le frein à main.
Oui, c'est cette métaphore-là. Donc elle me dit, à un moment donné, elle me dit, ben voilà, est-ce que tu en as assez marre pour te lancer ou pas? Ou est-ce que c'est peut-être que c'est pas le moment? Et puis, en effet, c'était largement le moment. Et donc, depuis, on a continué. Je continue à faire ces allers-retours entre Paris et la Suisse. Et les choses se mettent en place. Cette fois, dès ce moment-là, dès juin l'année passée, je savais que j'allais le faire. Mais ça a pris 3, 4, 5 ans avant de me dire, OK, je vais le faire. Pendant 3, 4, 5 ans, je me suis dit, peut-être qu'il ne se fera pas, ce spectacle.
Noël Antonini, vous êtes patient, visiblement. Ça sera une création qui va se jouer où? Est-ce qu'on peut déjà donner des signes ou des indices? Vous êtes assez avancé pour pouvoir au moins nous allécher et nous dire, en plus de la pensée même de ce spectacle, avoir un point de chute, c'est quand? C'est en automne 2013, en avril 14, c'est
alors,
quand?
C'est sur mon envie, c'est sur 2013-14. Il y a plein de choses qui sont très avancées. J'ai déjà 8-10 théâtres, parce que moi, je voulais pas faire une création, puis après, rien avoir derrière. Donc, j'ai déjà 8-10 théâtres qui le prennent à l'aveugle sur le dossier. Donc, il sera de toute façon déjà joué une bonne douzaine de dates minimum après la création.
Puis la création où?
Alors la création, c'est là le feu vert que j'attends. C'est-à-dire que Michel, qui a un très bon contact avec Vidi, est en discussion avec Vidi. J'attends une réponse de Vidi. Ça pourrait se faire là. Ce qui pour moi, Vidi, serait le plus beau cadeau, et je touche du bois en le disant, parce que c'est moi, Vidi, c'est juste que voilà, étant humoriste, c'est pas l'endroit où on devrait me voir.
Mais vous serez pas tellement humoriste, vous serez un comédien en scène.
Non, oui, mais voilà, mais dans ce milieu-là, disons théâtral et dans la création, j'ai encore rien prouvé, donc c'est vrai que ça pourrait être un risque pour eux. Ils doivent prendre ça sur dossier. Il y a Michel qui a travaillé chez eux et avec qui ils ont une grande confiance, mais est-ce que ça veut dire que je ne vais pas trahir cette confiance-là? Donc évidemment, il y a un enjeu. En plus, à Vidi, on sait ces derniers mois qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, de changements de direction, etc. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment que ça se fasse là, et voilà. Mais sinon, j'ai eu un accueil possible ailleurs, et je fais un clin d'œil à François Marin, le directeur du théâtre de Sion, qui on a eu une discussion ensemble et qui serait ouvert aussi à l'accueillir. Sion, Lausanne, je sais pas encore.
J'ajoute un indice, Noël Antonini, parce que François Piton, qui est le programmateur de l'émission, il choisit les chansons, toujours des très belles chansons. Cette chanson s'appelle « The Only One », et vous vous taisez là, mais 10 secondes, hein. Olivia Pedroli.
Gather all the grass to feed your heart at last, for you're the only one. Sleep out by your side and glance with the pride of being the only one.
observe the world with open eyes and distracted from its own disguise. Under the sea, the sheep are dancing with the stars. I'll chase the wolves away to keep you safe. I may be the only one. Take you under my wings and show them how it feels to be the only one. To observe the world with open eyes and distracted from my own disguise. Under the sea, the sheep are dancing with the stars.
Olivia Pedroli, Noël Antonini.
Vous savez qui c'est? 10 secondes, je compte.
10,
on a entendu l'émission. Ouais, c'est elle. Et oui. Puis, avec elle, vous allez travailler et collaborer. Chanteuse neuchâteloise, lol. Mais Olivia Pedroli sera du spectacle.
Oui, alors,
Vous avez demandé juste de vous taire pour que vous ne donniez pas déjà l'indice, disons le détail de l'indice.
D'accord. Non, mais oui, elle travaillera sur ce spectacle-là. Elle a donné son accord. Il y a juste encore là aussi, c'est plein de choses. C'est que selon les dates de création.
Oui.
Elle peut le faire ou pas, parce qu'elle elle va sortir son nouvel album tantôt, là, sur l'année qui vient. Donc, elle aura toute une période de promotion, de préparation de sa tournée, etc. Donc, oui, elle a envie de travailler sur la création musicale de ce spectacle-là, parce que moi, j'avais très envie qu'elle bosse avec moi, parce que j'adore ce qu'elle fait et que ça correspondrait vraiment très bien à l'univers que j'ai envie d'amener dans ce spectacle-là. Maintenant, ça dépend encore des dates de création, donc... Je touche du bois encore une fois.
Oui, d'habitude on se tient la tête, le front. Oui, on bouge un tout petit peu, Noël, parce qu'on s'est affalé dans vos canapés.
Vous avez dit qu'on s'endormirait dessus.
Ah, je vous ai dit. Alors j'ai pas du tout l'impression de dormir. Oups, j'ai failli glisser. On bouge un tout petit peu. Là, il y a des chouettes tableaux, parce que j'aimerais juste qu'on les commente. Et puis on reviendra à votre projet aussi. Là, dans cette pièce... Ah ouais, alors des tout petits tableaux carrés. Ça, on y viendra peut-être tout à l'heure. Puis là, une vache. Alors, un tableau, mais j'adore.
Ouais, c'est ma vache. C'est ma vache, mais surtout, c'est ma vache du Locle, parce que j'ai habité 10 ans au Locle. Et puis, surtout, c'est un tableau qui compte pour moi, parce que il a été fait par un artiste qui est un ami qui m'est très proche. Et c'est drôle parce que avec cet ami-là, on a causé déjà il y a 5-6 ans pas mal de l'éventualité de ce spectacle-là ou de montrer une autre facette du clown que je suis. Et c'est Denis Rebeté qui est un artiste peintre du Locle.
Alors un cadrage, une vache sur un pré, mais alors évidemment, ça pourrait être d'une banalité, ça pourrait faire peur ou ça pourrait faire poya, pas du tout. C'est moderne, c'est contemporain, c'est beau.
Oui, c'est moderne, c'est contemporain. Puis surtout, ce que j'aime bien, c'est que cette vache, elle est suspendue comme ça un peu en dessus de nous dans ce champ.
Et d'habitude, j'aime pas les vaches sans cornes, mais là, je peux l'aimer, celle-là.
Eh ben, c'est drôle parce que cette remarque-là sur ce tableau, je l'ai entendue plein de fois.
C'est vrai?
Mais oui, il y a plein de gens qui disent, ah, j'aime pas les vaches sans cornes, mais là, quand même, elle est chou. Mais oui, elle a ses oreilles grandes ouvertes. Là, j'ai l'impression, quand on parle là, qu'elle nous écoute.
Elle vient nous regarder, nous écouter.
Exactement. Comme une vache le ferait, un peu dire, c'est qui ces deux-là? Ben voilà.
Comme si nous étions un train.
Voilà. Et chaque fois que je suis dans mon train-train quotidien dans mon salon, elle m'observe passer. Et j'adore ça.
Alors là, c'est là où vous faites de la paperasserie. Tiens, il y a des bouquins que je connais. Et puis, une série de petits tableaux avec des épis. Alors j'imagine que c'est de la même pâte que Denis Robettet, ça.
Oui. Comme je côtoyais Denis un peu moins ces temps, mais parce que je suis plus au Locle, mais pendant régulièrement quand j'habitais au Locle, ça c'est 7 petits tableaux que j'ai faits. Avec un grand tableau qu'il a bousillé en voulant le corriger, parce que on avait fait quelques remarques sur un de ses coquelicots au milieu de ce tableau-là, il a voulu le corriger, et puis du coup, il a massacré son tableau, et il voulait le jeter, et j'ai dit, mais non.
Vous faites les poubelles chez les copains.
Alors moi, j'ai fait les poubelles, et j'ai récupéré son tableau, et je l'ai recoupé en petits cadres carrés, et j'ai fait faire des cadres exprès pour. Quand il a vu ces 7 cadres, il m'a dit, mais t'es un salaud, mais t'as pas le droit, il y a même ma signature, tu dois me donner des sous.
Vous avez donné?
Ouais. Après coup, parce que
c'est dur la vie d'artiste.
Parce que j'ai eu mauvaise conscience, parce que j'avais dit, je vais prendre 2-3 carrés. Puis à la fin, je me suis dit, mais j'arrivais à en faire 7, puis ils sont assez beaux mis ensemble. Puis non, puis voilà, après coup, je lui avais payé un petit quelque chose par la suite.
Noël Antonini, ça c'est rigolo de découper un tableau, alors que vous êtes de formation graphiste au départ, et vous n'avez jamais travaillé, mais vous massacrez les œuvres des copains, et vous allez chercher dans les poubelles.
C'est lui qui l'a massacré avant moi. Moi, je l'ai fait renaître. Cette œuvre serait morte actuellement, brûlée, incinérée à cri d'or à la Chaux-de-Fonds. Et grâce à moi, on en parle aujourd'hui. Non, c'est vrai que oui, j'ai une formation de graphiste. J'ai fait l'école de graphisme à l'école d'art à la Chaux-de-Fonds.
Et pourquoi vous n'avez jamais pratiqué?
Bon, parce que la vie m'a amené ailleurs, parce que quand j'ai commencé l'école, j'ai commencé à faire de l'improvisation aussi. Et puis après, est arrivé Peutsch. Et puis en fait, à la sortie de l'école, c'était une évidence pour moi que je n'allais pas faire de graphisme après. Mais j'ai fini, parce que quand je commence quelque chose, je le finis. Et voilà, donc naturellement, je suis arrivé dans le milieu du spectacle. C'est un hobby, une passion qui est devenue un métier. Mais jamais, je me suis jamais dit, je vais devenir comédien ou humoriste. Ça s'est fait très naturellement. Et puis voilà, j'en suis très content.
Vous sentez des carences parce que faire le clown, être drôle, faire partie des Peutsch, etc. Bah ça, vous avez le talent, ce serait pas le cas, ça se serait vu et su et on vous aurait mis à la poubelle. Mais le vrai talent du comédien qui va s'incarner lui-même aussi dans la gravité, êtes-vous certain d'avoir ce talent-là? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez peur?
Oui, oui, j'ai des doutes et j'ai peur, pas. Oui, je suis certain que j'ai ce talent-là. Non,
oui.
Je sais, j'ai des indices de partout mon parcours, que ce soit en improvisation, que ce soit en théâtre, que j'ai accès à ces émotions, à cette gravité, ces choses-là. Maintenant, il y aura un énorme, le plus gros travail après l'écriture, ça sera le jeu. Il y aura un énorme travail de jeu, évidemment.
Mais il y aura des effets spéciaux parce que ce sera pas seulement un mec sur scène. Il y aura quoi en plus? Parce que s'il y a de la musique, il y aura quoi?
Il y aura de la lumière. Non, mais il y aura de la lumière.
On n'est pas obligé de venir avec des bougies.
Mais c'est ça. Mais justement, c'est pas une ampoule. C'est pas une ampoule écologique. On va attendre 10 minutes qu'elle s'allume. Je suis très content aussi de pouvoir travailler avec Dominique Dardan. Ça faisait 10-15 ans que je me disais, si un jour j'écris un spectacle un peu plus théâtre, etc. Il faudra que je demande à Dardan parce qu'il fait des éclairages mais magnifiques. Et je suis content parce qu'il est enchanté de travailler sur ce projet-là.
Et puis, je sais pas, des trucs en plus. Enfin, on va pas dire qu'il y aura de la pyrotechnie, mais et puis pas dire ce qu'il y aura vraiment, parce que pour l'instant, vous n'en savez peut-être rien. Mais il y aura pas seulement un mec sur scène et une chaise.
Mais oui, je pense qu'il y aura seulement un mec sur scène et une chaise. Non, je sais pas.
Moi, je me réjouis alors.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que on sait pas peut-être qu'est-ce qu'on va amener comme décor ou pas, etc. Moi, je suis de mon fonctionnement plus pour la sobriété. Donc là, l'important, c'est le texte, c'est le vécu. C'est moi, je me souviens que quand j'étais dans mes cours de catéchisme, quand j'étais petit, je me souviens que moi, le curé qui racontait les histoires de Jésus, Je suis pas croyant du tout actuellement, mais je m'en foutais, j'adorais ça, parce qu'on me racontait des histoires.
Oh, puis il avait un éclairagiste formidable.
Il était éclairé par le Tout-Puissant, qui est le plus grand éclairagiste que l'on connaisse. Et voilà, donc moi j'ai envie de raconter des histoires. Si je fais ce métier-là, c'est pour raconter des histoires. Donc là, même si on est sur un spectacle qui sera plus profond, je vais raconter une histoire. C'est une histoire de vie. Je vais raconter mon histoire et je vais toucher. Le but est de toucher l'histoire de tout un chacun.
Auriez-vous voulu parler de l'histoire de quelqu'un d'autre plutôt, ou est-ce un passage obligé que de commencer par un spectacle autobiographique quand on fait, quand on se lance dans un projet tel que celui-là?
Je sais pas si il aurait mieux valu parler de l'histoire de quelqu'un d'autre en premier, ou si au contraire je parlerais d'autant mieux peut-être de l'histoire de quelqu'un d'autre après avoir fait celui-là. Je crois que celui-là, ce que je me rends compte en avançant, là où j'ai juste, je crois, c'est que c'est une vraie nécessité et que je sens que j'ai besoin de le faire là maintenant.
C'est de plus en plus impératif.
Oui, c'est de plus en plus impératif, ouais, parce qu'en plus, plus je vais fouiller, plus je touche la chair, les chairs de ce spectacle-là, les profondeurs chez moi, dans mon écriture aussi, parce que le travail de Michel a été de m'amener à la deuxième phase d'écriture où Michel m'a dit, mais c'est très bien ce que t'as écrit, mais t'aimes pas beaucoup te faire mal, toi. En effet, on reste des Suisses dans un petit confort. Mais elle m'a dit, si on va plus loin, il va falloir que tu te fasses mal, il va falloir aller chercher plus profond.
Oui, Noël ou Antonini, c'est bien ça. Vous allez explorer la fêlure. Vous allez être obligé d'aller grailler au fond, en nous faisant rire et en nous faisant pleurer. Alors, on s'en réjouit déjà, mais c'est prendre un risque. Le risque, c'est essentiellement ça. C'est un risque psy.
Je sais pas si c'est un risque psy, parce que je sais pas ce que ça veut dire, un risque psy.
C'est un risque de démonter tout l'équilibre qui est le vôtre aujourd'hui.
Ah d'accord, alors la première chose que je répondrais, oui c'est un risque, mais mon métier sans risque, c'est pas un métier, c'est comédien, c'est un métier, il faut prendre des risques, ou alors on peut interpréter des rôles déjà écrits et être juste comédien, mais le fait de créer des spectacles, faire les putsch était déjà un risque, faire un spectacle solo, c'est un risque, et si je prends pas ces risques là, je fais pas ce métier à 100%. Maintenant, un risque psychologique, ouais je pense que, alors il y a une chose qui est certaine, c'est que mon équilibre, peut-être que je vais le bouger, mais je risque aussi de bouger ce qu'on pourrait appeler le mobile de l'équilibre familial, parce que autour de mon père il y avait deux sœurs, il y a ma mère, il y a des gens qui sont impliqués là-dedans. Derrière moi dans le mobile, il y a mon ex-femme, il y a mon fils, il y a plein de choses qui sont liées et qui seront dans ce spectacle-là. Les choses que je vais dire vont peut-être aider les gens qui m'entourent, peut-être vont aider mon fils aussi, pour des raisons que vous comprendrez dans le spectacle, ou ma sœur une de mes deux sœurs qui a été violemment touchée par la mort de mon père, qui, je le dis à un moment dans le spectacle, si vous voulez voir quels sont les effets de la météorite qui est tombée sur la Terre il y a je sais plus combien de milliards d'années, il faut retrouver la couche terrestre correspondante à ce moment-là. Si vous voulez voir les effets de l'explosion d'obus qui a été la mort de mon père, il faut parler à ma sœur.
Oui, parce que vous, à 3 ans et demi, c'est l'absence de votre père, c'est pas la mort de votre père. Est-ce qu'on s'en souvient à 3 ans et demi de la présence de son père, à part les photos et ce qu'on vous raconte?
Non, ce qui est rigolo, c'est que quand on parle...
Rigolo.
Oui, c'est rigolo. Moi, ça m'amuse. Mais justement, moi, après, j'ai une vision de la mort qui est aussi différente des gens, par le fait de l'avoir intégré dans mes chairs très tôt. Mais ce que je disais par rapport à ça, par rapport à la mémoire, c'est Huguette, qui est chouette, ma psy, et qui est plus psy que chouette.
Elle est psy chouette.
Elle est psy chouette. Elle m'avait dit... Parce que moi, j'ai toujours eu des souvenirs d'enfance très tard. Mes premiers souvenirs, je suis toujours impressionné. Les gens ont des souvenirs assez tôt. Moi, j'ai des souvenirs pas avant 6-7 ans. Et elle me dit, alors elle dit, ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qu'elle disait qui est intéressant, elle disait, mais à chaque phase de l'enfance, on traverse des phases dans l'enfance. Et s'il y a un traumatisme, on va utiliser cette phase pour se protéger. Et entre 3 et 4 ans, c'est les âges où on passe du monde inconscient au monde conscient. Et elle dit probablement que la protection à ce moment-là, pour l'enfant que j'étais, c'est de prolonger l'inconscient et donc du coup voilà pourquoi j'ai pas de souvenirs si tôt. Et elle dit, et ça pourrait être aussi une des raisons pour lesquelles je suis dans des métiers, j'ai une formation de graphiste, je suis comédien, dans des métiers qui travaillent sur l'imaginaire, ce qui pourrait être le fait d'avoir un imaginaire très développé vienne de là.
Merci Noël Antonini, bon me raccompagner à la sortie.
Oui, très volontiers.
Et on fera d'autres sorties ensemble.
Mais très volontiers parce que vous restez pas plus longtemps, ça a passé vite le temps.
Mais attendez, mais c'est une heure, c'est bientôt minuit, il faudra vous y faire.
Mon Dieu, faut aller dormir en effet.
Alors on tourne. Ah, on aurait pu sortir par là, non? C'est pas la même porte.
Oui, dans ce manoir, on peut sortir de tous les côtés. Voulez-vous sortir par l'aile droite ou l'aile gauche?
Attendez, là c'est les toilettes.
Vous êtes à la salle de bain.
Écoutez. Par la sortie service.
Oui, alors voilà. Ah là, vous voulez sortir incognito, c'est par ici.
Et on écoute un jeune Québécois qui vient de sortir un album. Il s'appelle Sébastien Lacombe. Et il chante Celui qui vient de loin. Jolie chanson.
Merci. Ben, vous qui êtes venu de loin,
j'y retourne.
Je vous souhaite un bon retour chez vous. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait vraiment très, très plaisir. Puis je me réjouis qu'on se revoie pour la suite.
Eh ouais, c'est bientôt, c'est dans 6 mois, disons.
Ah mon Dieu, ouais, mais 6 mois, c'est demain pour moi.
Et vous aurez changé de maison. Bye bye, bon, au revoir Noël.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Connais-tu celui qui vient? Connais-tu celui qui vient de loin? Celui qui passe près de toi, celui au regard lointain, celui qui sort de ton décor, où toi tu te fonds dans le sien. Connais-tu toi tu penses à demain, celui qui fuit et qui fond tant d'espoir dans ton monde, celui qui n'a pas le choix, celui qui prend ce qu'il peut, dans la peur de ses yeux y a quelque chose de toi.
Celui qui vient de loin, Sébastien Lacombe sur la première. Et nous, on va pas très loin, on prend juste des nouvelles de la route.
Infotrafic, RTS.
Soyez prudents si vous circulez en région genevoise, car du verglas signalé dans le secteur de Bernay-Confignon-Aunay, le salage de la chaussée est en cours. Vous êtes sur la première. Dans quelques instants, il sera minuit. Nous quittons Daniel Fazan et son émission intérieure. Et tout de suite, les informations sur la première.